16 heures passées de 2 minutes sur les 3-8, l'heure de passer en direct quelques instants autour de la 23e édition des Instants Vidéo, rencontre internationale des arts numériques et poétiques qui, entre La Ciotat, Kiev, Oran, Prague ou Damas, battent leur plein en ce moment même à Marseille, à La Friche et de nombreux autres lieux jusqu'à dimanche 14 novembre. Marc Mercier, directeur artistique et maître de cérémonie surbooké de ces rencontres, nous rejoindra peut-être dans quelques instants dans le studio de Grenouille pour évoquer quelques aspects de cette programmation foisonnante. Si foisonnante qu'il était impossible de vouloir en dresser dans cette émission un catalogue raisonné. Dès lors, le parti pris sera de faire de ce studio et pour l'heure qui suit, un des lieux de création et de débat de ce festival riche en création et en débat. On accueille donc Ginée M, poète, plasticien, éditeur, invité d'honneur de ses 23e instants vidéo, d'honneur du verbe donner, bien sûr, puisqu'il donne à voir et à entendre une explosion, série de performances et expositions explosées en de multiples lieux réunis sous l'intitulé générique de Survol. Survol numéro 6 au cours de cette émission spéciale avec quelques sons à écouter dans un instant. Création et débat, les instants vidéo, manifestations poétiques mais aussi politiques donnent lieu à des débats ou ébats, comme préfère le dire je crois Marc Mercier. On aura donc au cours de cette émission l'occasion d'échanger quelques propos doux amers sur le thème « On s'éclate » autour et à propos de l'éclatement, éclatement des formes artistiques manifestes au cours de ce festival, mais aussi, et c'est peut-être moins drôle, éclatement, émiettement parfois, des structures qui les portent dans un contexte politique franchement hostile au projet de création dans ce beau pays qui est le nôtre. Autour de ces questions, pour m'aider à en dégager les problématiques, Vincent Bonnet, qui met en œuvre Fonds Commun, organe de presse problématique. Et Vincent Bonnet est venu accompagné de Stéphane Lemercier et Fred Nefcher-Lyon. Enfin, David Bouvard, artiste sonore, nous propose quelques bulles sonores dont vous avez d'ailleurs pu entendre un avant-goût tout au long de cette semaine sur cette antenne en annonce de cette émission et dans son générique. On écoute tout de suite, pour se mettre dans l'ambiance, une première pièce. C'est un extrait d'une bande-son d'un film programmé dans le cadre de ses 23e instants vidéo. Ça s'appelle « Musique Colo ».
Dada ist der Urgrund aller Kunst. Dada ist der
Ah!
titre Chien et loup, un extrait, une matière sonore brute de décoffrage extraite d'un des films présentés au cours de ses 23e instants vidéo. Après cette plongée, un survol, c'est en effet survol le titre générique des propositions de Gine M, à la fois pour cette émission spéciale et pour l'ensemble des instants vidéo. Survol, Gine, c'est un projet d'écriture de la ville. Et puis à la base, je crois, de ce projet, il y a la découverte de cartes, d'anciens plans d'urbanisme. Et c'est ça qui t'a donné l'idée de travailler cette proposition, Gine?
Oui, c'est plus de découverte, c'est plutôt une préemption. Dans les services de la ville, j'ai trouvé une liasse de plans qui traînaient. J'ai feuilleté cette liasse. Et j'étais stupéfait de la variété des formes, de... J'ai pas trop réfléchi du tout à ce que je faisais, je suis parti avec.
Un travail à l'intuition, à partir de ces cartes, pour te perdre et peut-être te resituer, te relocaliser. Un premier travail, une première proposition qui est plutôt plastique, qui est plutôt photographique.
Oui, c'était le point de départ, ça a été de regarder, de... C'est pour ça que je parle de survol, c'est-à-dire en regardant un plan, on s'aperçoit à quel point un plan est désincarné. Et très rapidement, dans mon travail photographique, je me suis mis à marcher dans la ville. Je suis allé chercher un arbre, un platane, le platane de la Banque Populaire, du côté de Bonneveine.
Et alors, tu as cherché à réincarner un petit peu cette vision de la ville, à y amener des habitants, des poètes, des voix, des chairs, des corps?
L'arbre est le symbole de tout. Il y a les racines, il y a le tronc. Alors j'ai travaillé ce tronc à le tronquant. C'est une expression qu'on peut retenir. Je l'ai inséré dans le plan. Et tel qu'il est, au niveau de sa forme, de sa texture, on a l'impression d'une vision aérienne d'une steppe. Ça m'a beaucoup intéressé d'intégrer la matière organique et la matière végétale dans le lieu où on vit, qui est résumé par des petits carrés, des petits traits noirs et blancs.
Alors dans cette proposition survol, tu n'étais pas tout seul, et loin s'en faut, et tu étais notamment accompagné de Florence Pazzotou, auteur. Peut-être quelques mots sur ce qui vous a fait vous rejoindre pour cette proposition.
C'est une suite. L'année précédente, en 2007-2008, Florence m'avait proposé une collaboration sur un livre des textes qu'elle faisait sur le quartier du Panier. C'était aux éditions Lamourier. Ça s'appelait La place du sujet. Et j'ai fait les photographies au fur et à mesure qu'on faisait la mise en page. Donc j'ai fait un travail photographique à partir du quartier du Panier. Lorsque on m'a proposé de faire une exposition à Graines de Lumière, à la galerie La Traverse, tout de suite j'ai eu envie de poursuivre ce travail sous la forme d'un partage qui provoquerait une différence, c'est-à-dire qu'on changerait de notre collaboration, changerait de nature. Donc elle a accepté, on s'est associé, puis petit à petit ça s'est totalement transformé.
Un travail pour lequel tu lui as demandé de faire exactement tout ce que tu lui demanderais, ça a été effectivement le cas.
On saute quelques étapes, mais c'est vrai que Florence est une poète qui écrit des textes remarquables, ciselés, qui sont fantastiques dans la densité. Elle a aussi cette qualité de savoir lire ses textes, ce qui pour moi est essentiel et plutôt rare. Je suis toujours très désappointé de voir souvent comment les poètes et les écrivains lisent leurs textes. Bon, souvent ça me paraît totalement inutile, je préfère la lecture ou rien du tout. Et je lui ai proposé de ne rien me refuser dans les postures dans lesquelles que j'allais soit improviser, soit lui proposer dans la ville de Marseille, c'est-à-dire sur ce territoire. Donc dans ce travail qui était une sorte de partage des territoires, dans la recherche du territoire lui-même, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver, il m'a paru important d'essayer de tenter de voir ce que la poésie, ce que l'écriture, comment elle survivait. Et du ventre d'un ferry avec le bruit des diesels à l'escalator de la Flaque, en passant par le Vieux-Port, par la gare Saint-Charles, elle est imperturbable, un livre à la main, elle lit ses textes. Et moi je filme.
Parcourir la ville en long, en large, en travers et même parfois en diagonale, en compagnie de Florence Pazzutu. Tu es venue JDM avec quelques extraits sonores issus des différentes performances que tu as proposées tout au long de ces survols. Et je te propose qu'on commence par écouter un premier extrait.
Et je suis d'accord.
Allez, on y va.
Je ne suis pas d'accord. D'accord.
Ouais, je préfère qu'on...
Mais donc là, je le dis sur l'aller-retour. Toi, tu fais l'aller-retour aussi.
Toi, tu démarres.
Là, je démarre, je démarre
avant,
d'en haut.
Avant de démarrer.
Giné, je peux garder les lunettes comme ça ou... On va attendre qu'on ait tourné le coin peut-être, ce sera plus... Non, ou tu veux le moment où ça tourne le coin?
On est obligé de choisir parce qu'en fait, on a très peu de temps.
Oui, de temps.
Ce qui ressemble le plus à la vieille salle des machines, tu vois, avec du moteur, quoi, qu'on voit du moteur.
Pitch. Je suis partie beaucoup trop tard. Non, beaucoup trop tôt. Pardon?
Et quand tu as terminé, quand tu t'arrêtes, tu refais...
Un pit.
Ouais, ou tu fais un truc très très net.
Ça a marché ce soir? Moi j'ai pas claqué des doigts.
Voilà.
D'accord.
Tu peux faire pouf. Pitch, tu dis pitch.
Je dis pitch.
Je fais.
D'accord.
On est où là?
Je vais où là? Où tu veux? Je me balade comme je veux, tu me suis?
Ouais, ouais.
Hein?
Tu veux que je marche dans l'eau?
Tu veux que je marche dans l'eau?
Ouais,
tu veux que je marche dans l'eau?
Ouais, c'est, je sais pas si j'arrive à t'avoir, j'ai aucune idée.
Tu veux marcher mes pieds dans l'eau? Tu veux que je voie mes pieds dans l'eau?
Je sais pas trop.
Et je fais comment maintenant moi?
Comment?
Que je passe la soirée ici moi?
Comment tu passes la soirée ici?
Et bon,
j'irai te chercher une paire de chaussures.
Non. Non, c'est que je l'aurais emporté si j'avais su que tu voulais que je marche dans l'eau.
Et vous êtes Florence Pazzutu.
Ouais, ici on dit tu.
Florence Pazzutu et pas Pazzotti, à laquelle on peut dire tu si on la connaît bien, et tu la connais bien, Giné, après ce travail réalisé ensemble. Alors, je vois que tu as conduit Florence à aller dans des endroits pas forcément, je dirais pas hostiles, mais enfin, quand même un peu désagréables, marcher dans l'eau, etc. Dans quels endroits de la ville, dans quel lieu de la ville vous avez réalisé ces sons et ces films?
Dans les entrailles de la Méditerranée, c'est un ferry. Gare Saint-Charles, où la caméra est posée sur le sol. Et où on est assailli par les vigiles tout de suite. Il semblerait que... On ne sait pas trop si c'est de dire la poésie ou c'est de filmer qui rend les gens nerveux, les vigiles. On a filmé au milieu des gens à la FNAC. Aussi pareil, ça a été difficile de poursuivre. Ça paraît incongru de filmer. Alors qu'on a toujours le droit de filmer partout où on veut. Ce qui est réglementé, c'est l'usage de la photographie, du film... Et d'autres lieux qui ont été prévus. Enfin, on a conservé quelques lieux puisqu'il fallait faire un choix. Et puis, c'est pas un exercice de style. C'était pas essayer de démontrer quoi que ce soit et surtout pas une liste des lieux. L'intérêt, c'était de travailler avec de l'eau, avec la goutte. Dans la performance que nous avons fait la compagnie, à la fin, je fabrique une goutte d'encre que je filme en direct et qu'elle regarde et qui disparaît. Donc c'est une intervention de performance extrêmement modeste. Mais comme je me situe la plupart du temps en tant que plasticien avant les gestes qui signifient, j'essaie de trouver des postures d'un artiste qui ne réemploie pas ce qui a déjà été créé, qui a déjà été produit. J'essaie de me trouver avant. Donc c'est aussi ce que je fais avec la performance avec Philippe Boisdard, où je suis avant les ouvrages. Je fais une œuvre sans ouvrage.
On va en entendre d'ailleurs des extraits tout à l'heure, mais on a bien vu là que vous vous confrontiez à des réalités qui sont parfois des réalités hostiles, comme par exemple d'aller tourner un film à la gare Saint-Charles, alors que Vigipirate, ou je ne sais pas quel dispositif sécuritaire est encore en place là-bas. C'était une volonté délibérée d'aller dans le ventre d'un ferry, d'aller dans une gare, d'aller vous confronter à l'interdit?
Alors, pour le ventre du ferry, c'était pas compliqué. J'avais proposé à Florence de l'amener dans des lieux où, à la limite, les milieux la feraient taire. Sa voix, son texte. Et j'étais persuadé que les plus gros diesels n'y arriveraient pas. Donc on a essayé de... Mais elle a accepté. Ce qui était important pour moi, c'est qu'elle accepte le fait de dire sur à quoi elle tient le plus ses textes et que ses textes ne puissent pas être entendus. Donc là, il y a un échange dans le travail qui, je trouve, est magnifique. Le fait qu'on vous dise oui alors qu'il y a le naufrage éventuel du son et du sens à la fin. Moi, j'aime beaucoup travailler avec quelqu'un comme Florence qui d'emblée accepte ça. C'est pour ça que quand je dis que je lui ai demandé de ne rien me refuser, c'était des questions et des réponses de cet ordre-là qui étaient mises en œuvre. Voilà.
Envers et contre tout, la poésie. On écoute un deuxième extrait sonore que tu nous as apporté et on retrouvera sans doute un bruit qu'on a déjà entendu, un son qu'on a déjà entendu dans le premier extrait. On le commente juste après.
Ah. Celui qui parlant fait jaillir fut le premier à découvrir le dehors au dedans. Son oreille en avait inventé le chemin. Ces drôles de semences d'air qu'il semait en improvisant, plusieurs voulurent savoir d'où elles venaient. La fente par laquelle, tenant ferme la queue du poème, parlant qui fait jaillir entra dans la densité du réel, fut nommée trou d'allégresse. 1. D'argile est l'oreille d'un beau rouge animal, sainte victoire. 2. Ses semences éclairent. 3. Poème ici et facochère a dû faire. 4. Cette percée énigmatique, quelle joie! B. Rythmée par la lune et élevée sur elle-même, deux en une ne put, malgré ses efforts, faire cuire le vers trouvé dans une phrase. Toujours ce vers qui en lui-même était un crotal, chantait. Elle en titilla tout de même le luisant, le crotal surgit et l'enlaça. Il était le puissant, peut tout dire. Nul ne put l'empêcher, il la baisa. Au fond du trouble où elle fut entraînée, la jeune duelle disparut. Mais à sa mère inconsolable, elle offrit 7 rêves, et grâce à eux fit encore 3 dons, poèmes, où s'exauçait le rythme de son ombre. 1. Soi-même ici est un enclos, il se peut cependant qu'on s'y perde. 2. En sert-il l'ingénu que la force subjugue, anneau du sens. 3. Le trop-plein est un puits où la chance s'enlise. 4. Duel en avait 2, une ombre fut dissoute, l'autre ombre remue encore, manifeste et fait corps. Ni le chaos, ni la source tarifient.
On entendait le bruit d'une hache tapée sur des bûchettes de bois dans le premier extrait et dans ce second extrait, une hache maniée de main de maître par Ginet M, poète plasticien et parfois aussi bûcheron. Je crois d'ailleurs que dans le passé tu as été réellement bûcheron, Ginet,
oui.
C'est ça?
Oui, oui.
C'était où?
Eh bien, nous sommes dans l'endroit le plus confortable qu'on ait jamais trouvé au cours de ce projet. On est sur le vieux port, sur le quai, sur la panne du canal de la douane. La bonne mère derrière nous et entre nous deux une énorme bite de métal qui a servi, qui a un lourd passé. Et moi je suis à quatre pattes ou assis sur le sol et je coupe du bois et Florence passe et repasse devant moi avec une ombrelle et, comme une marquise et dit son texte. C'est à la fin elle jette le livre. Voilà, c'était une posture pas vraiment travaillée. J'ai eu envie de faire ça. Ça faisait longtemps que j'avais envie de couper du bois sur le vieux port.
Couper du bois, manier la hache, c'est peut-être aussi une réponse un peu cinglante, en l'occurrence à tous ceux qui aujourd'hui manient les coupes sombres dans le domaine de la culture. Beaucoup de coups de hache en ce moment aussi.
Oui, on peut y voir ce symbole aussi, oui, en forme de réponse.
Et en l'occurrence, tu coupais du bois, un petit tas de bois. Qu'est-ce que ça devient, ça, les petits tas de bois que tu coupes sur le vieux port? C'est des pièces en elles-mêmes qui restent après, que tu laisses sur place avec le texte? Ou bien c'est des choses que tu évacues après?
Non, je crois que le fait de couper du bois... J'ai fait des petites bûchettes à l'époque où je coupais beaucoup de bois pour me chauffer l'hiver, en Luberon. Et la façon dont je recoupais par la suite ces gros bouts de bois qui devenaient des petites bûchettes pour faire un petit croisillon qui claquait, et qui était ce qu'on appelait la flambée, fascinait la plupart du temps les fils et les filles de mes amis. Donc au départ, c'était ça. Le projet, c'était l'émerveillement de pouvoir couper un allumette et le poids de la hache. Je trouvais qu'il y avait là un geste presque premier, pas compassé du tout, dégagé de tout lien artistique et qui avait sa source, sa racine dans le travail quotidien. Et là, je me sens à l'aise quand je peux me servir de ce qui, de moi, est ordinaire. C'est ce que j'ai fait en tant que homme ordinaire, où je partage le sol avec les autres, réservant pour des moments plus privilégiés ou plus exceptionnels, ce que j'appelle l'extra par la suite. Mais l'extra n'existe que si avant on a assumé le partage de l'ordinaire.
Affronter la parole au bruit, affronter la parole au bruit de la ville, affronter la parole au coup de hache de ceux qui nous dirigent, peut-être, est-ce que ça évoque quelque chose dans ton esprit, Fred Nechérilian? Je rappelle au passage que tu es musicien, slameur, Alors est-ce que ça te tenterait, toi, par exemple, de dire un texte avec quelque chose dans le son qui soit aussi hostile que le moteur d'un ferry ou des conditions telles que celles que Ginet a pratiquées?
Oui, ah oui, carrément. Déjà, parfois, dans certaines situations, j'allais dire de bar, quand on a fait des soirées de lecture, il y avait aussi parfois l'hostilité des gens. Déjà, dire un texte, peut-être avec un bruit très, très violent, ça peut être gênant, mais aussi le bruit des gens ou l'indifférence, ça peut être aussi très violent. Mais ça me motive. C'est en aucun cas, ça m'empêche d'aller au bout de mon texte. Ou bien au contraire, même, ça devient... Il y a un but évident à aller au bout, quoi. Ça devient une sorte de gageur à aller jusqu'au bout.
On en reparlera tout à l'heure dans un moment de débat autour de cette notion de l'éclatement, mais peut-être là tout de suite à chaud sur cette idée de violence faite aux artistes. En ce moment particulièrement, on vient d'apprendre que les contrats aidés allaient être gelés et encore de nouvelles mesures d'hostilité à l'encontre de la dynamique associative, culturelle et sociale dans ce pays. Comment ça résonne pour toi, ça ?
Écoute, ça fait 3 mois que les ACEDIC ne m'ont pas payé, donc ça résonne. Et il y a des blocages, alors que j'ai toutes les conditions requises pour pouvoir... voilà, donc, et ça fait 3 mois que je suis là-dedans, et je viens à peine peut-être de voir quelque chose s'éclairer, mais j'en saurai plus mardi. Donc j'en veux absolument pas aux gens qui sont en bas au guichet à Pôle emploi, sauf que... quand on arrive là, c'est les gens eux-mêmes ne savent pas quoi nous répondre. Légalement, ils ne savent pas si on a le droit de toucher nos indemnités ou pas. Donc on est dans une situation où personne ne sait, personne... C'est assez... Ça résonne directement avec, du coup, mon actualité. C'est assez personnel, mais du coup, tout est relié. Et effectivement, c'est très violent ce qui se passe. Et je crois que les petites choses dont on parlait, enfin, qui ne sont pas des petites choses d'ailleurs, on parlait Giné, sur... choses ordinaires, les gestes du quotidien, c'est peut-être là où il faut trouver la force, trouver l'énergie, trouver la beauté pour continuer et être motivé à faire des choses.
C'est dans ces gestes du quotidien, en tout cas, que Ginet trouve de la poésie, qui est tout à la fois action, parole et art. Et Ginet, je te propose qu'on continue le parcours sonore que tu nous as proposé avec un troisième extrait en écoute maintenant. On n'est plus sur le vieux port, on n'entend plus la hache, une autre ambiance sonore.
Thank you.
pointillés, discontinuité, explosion, explosition, martèlement. Cette fois-ci, c'était une collaboration avec Philippe Boinard. Philippe Boinard qui est la moitié de HP Process, mais qui collabore aussi à une autre entité musicale qui s'appelle Database, et qui est d'ailleurs en train, je crois, en ce moment même, de performer dans la cartonnerie, dans le cadre de ses 23e instants vidéo. Alors, Ginéem, peut-être quelques mots sur ce qu'on vient d'entendre, cette proposition, cette collaboration avec Philippe Boinard.
Oui, c'est parti d'un film que j'avais fait et que Philippe Boinard avait vu en 2005, lorsque j'écris à la plume sur un papier qui gonfle, et je travaille sur la saturation de l'image, la saturation du son. Et non, pardon, la saturation de l'image, mais la continuité du son. Le son est unique, il continue, il insiste, il est unique, il est seul, et l'image se charge de cet élément unique qui ne veut pas se multiplier. Et donc ça m'avait beaucoup intéressé. Philippe Boinard est un des virtuoses inventifs et de ce qu'on peut appeler l'art numérique. Il y réfléchit beaucoup, il a des définitions. Il m'a beaucoup énervé au début, il m'énervait beaucoup avec ses outils, ses promesses des outils.
Parce que c'est un théoricien ?
Non, c'est que moi je ne crois pas aux promesses des outils du tout, je ne crois pas aux promesses des nouvelles technologies, je ne crois pas aux promesses du tout. Dès que quelque chose de nouveau apparaît, ça apparaît chargé de promesses, et moi je suis très très... c'est tout de suite suspect pour moi, j'ai envie de casser le jouet tout de suite pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je fais d'ailleurs, et il n'y a pas souvent grand chose à l'intérieur, c'est ce qu'on en fait qui est important, c'est ce qu'on en rêve qui est important, c'est... Ensuite, la façon dont on le torsade, on en arrive au style, au langage, vocabulaire, etc. Et Philippe Boinard m'avait fait une proposition, on ne l'a pas tenue. Entre-temps, il a beaucoup réfléchi, il a parfait ses outils. Et dans le maintien de la maîtrise actuelle, il y a une réponse qui est tout à fait difficile pour quelqu'un comme moi, il devient un peu dangereux dans la mesure où il peut déformer, il peut annihiler, il peut noyer tout ce que je fais. Et la proposition de travailler ensemble est devenue valable à partir du moment où elle contenait ce danger. Sans ce danger-là, je me sentais en position de critique et subjective. Donc dans cette proposition qui date de l'an dernier, c'est en vidéo, 11 novembre, on est un an après pratiquement. Donc je suis allé travailler 10 jours chez lui et j'ai amené des clous, là on entendait des clous, du verre avec des diamants, du bois, des haches, des papiers, de l'encre, des choses très simples. Et dans cette proposition initiale de faire des gestes dégagés de tout ouvrage, et donc qui peuvent prétendre à la réflexion, qui peuvent devenir œuvre ou rien du tout, il y a le contrepoint, c'était la façon dont lui allait filmer, mixer, et sa contre-proposition, et le caractère écarté au maximum dans nos deux propositions, moi dans l'analogique, manuel, gestuel, le plus simple, même dégagé de toute prestation, et lui tendu vers les déformations, les mixages, la multiplicité, le compactage de tout ça, il y avait quelque chose de très intéressant qui nous a amené à prendre du plaisir à travailler ensemble. Donc ça a donné cette performance qui s'appelle Écriture en extension, et que moi j'ai appelé par la suite pensant que je devais trouver un titre à ce travail que je commençais, Manu Tension, Tension avec un S. Je voulais garder le sans nostalgie, je voulais garder le mot même. Voilà.
Manutention avec Philippe Boinard, Ginéem et Philippe Boinard. On a bien compris la recherche de l'affrontement là dans cette situation, dans cette proposition contre proposition, deux positions très différentes, l'intuition et peut-être une approche plus théorique. Est-ce que vous avez l'impression, peut-être là la question s'adresse un peu à tout le monde autour de cette table, que cette dimension d'affrontement, elle est souvent nécessaire pour que l'art jaillisse et que finalement dans la tranquillité il ne se passe pas grand-chose, mais que c'est dans la contrainte, dans l'affrontement et dans la tension souvent que les meilleures propositions apparaissent. Peut-être Vincent, Stéphane, Fred. Stéphane.
Dans la tranquillité, oui, sans doute. Toujours plus. On parlait tout à l'heure de territoire, on parlait d'explosion. C'est vrai que c'est une forme d'échange, au final, que traverser une rue pour rejoindre quelqu'un et mener tous ensemble un projet.
Mais il n'y a jamais de projet serein. Enfin, c'est une des grandes naïvetés de ces dernières années, peut-être, de penser que les projets comme ça se font au fur et à mesure, comme si de rien n'était. Moi, je pense au contraire qu'il y a toujours une dimension comme ça, complexe, dans toute collaboration, qui est nécessaire.
Les projets ne sont jamais sereins. Vous êtes d'accord avec cette proposition, Fred, Fred
Disons Chérignon. Que les conditions requises, c'est un idéal, quoi. Parce qu'en fait, toujours de l'adversité à essayer de faire quelque chose. Et d'ailleurs, le fait de créer tranquillement, je sais pas si ça...
Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est si nécessaire que ça, cette adversité?
La nécessité... Je sais pas en fait, mais en tout cas elle est de fait, puisque souvent quand on commence à essayer de faire quelque chose, il y a des problèmes qui sont rencontrés. Après, si tu parles d'un point de vue c'est-à-dire philosophique, ou est-ce que si on est dans un état de difficulté face à des choses qu'il faut conquérir, etc., etc., oui.
Ouais, parce qu'il y a un peu cette légende de l'artiste maudit qui doit souffrir pour produire, et c'est un peu gênant aussi ça pour les artistes, cette contrainte-là, cette vieille ancienne de la nécessité de souffrir.
Après, il y a aussi le mythe de l'artiste qui œuvre comme un escargot, fait sa bave, quoi. Bon, après, c'est cette tension-là aussi qui est peut-être nécessaire. Après, moi, ce que tu évoques, ça me fait penser à un énoncé qui est apparu il y a quelques années, qui était « Ensemble, tout devient possible ». Bon, on peut tirer les conséquences, on peut percevoir aujourd'hui les conséquences sociales et politiques de ce que c'est ensemble.
Ça, c'était le mot d'ordre de l'UMP, hein, c'est ça ? Ensemble, tout devient possible.
Lors d'une campagne électorale, oui.
Lors d'une présidentielle. Voilà, on voit effectivement ce que c'est devenu. Pas terrible, hein, cet ensemble-là. On préfère des singularités.
En tout cas, ça donne une certaine vivacité à certaines personnes et pas à d'autres. C'est ce qui finit par être... que les personnes qui devraient être en vivacité intellectuelle pour contrer politiquement, faire des propositions, j'ai l'impression qu'elles participent du même mouvement. Finalement, elles sont ensemble, toutes. Peut-être que c'est aux artistes ou aux gens, aux autres, d'avoir un propos différent.
Sans doute un lien avec ce qu'on vient d'évoquer là, on vient de parler de l'adversité et de la manière dans une proposition artistique de se confronter volontairement à quelque chose qui relève de l'adversité. Mais au fond, aujourd'hui, au-delà de l'adversité, qui est l'adversaire pour les artistes? Celui qu'on vient de citer sans le nommer, hein, tout à l'heure?
Je crois que ce serait trop simple après.
Vincent.
Moi, je pense que ce que c'est cet ensemble, bon, ça c'est quelque chose qui, en tout cas, moi me travaille, quoi, en tout cas, et qui est peut-être quelque chose de perdu à reconstituer ou à énoncer. Et ça, quand évoquait la question de l'éclatement, bon, si on pousse les termes un peu plus loin, on arrive au terme de ségrégation, de repli, et bon, je sais pas.
Alors, dans...
C'est difficile à savoir.
Bien sûr.
Non, mais disons qu'il y a...
Fred.
Si on réussissait à créer plus de dialogue, tu vois, de dialogue, mais peut-être même un dialogue politique, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, on vote pour des gens qui ensuite ignorent la parole. C'est ce qui se passe en gros, hein. On a voté pour des gens, parce qu'on a aussi le gouvernement qu'on mérite d'une certaine façon. Et les gens, finalement, maintenant, ils décident tout seuls. Donc c'est peut-être recréer du dialogue, peut-être ça la base de quelque chose. Et peut-être que les formes artistiques, peut-être que même, il n'y a pas que les artistes, hein. Le tout venant, recréer du dialogue, ça pourrait être...
Sur le dialogue, sur la parole justement, je vous propose qu'on écoute un dernier extrait apporté par Ginéem, et l'extrait s'intitule justement « La parole ».
Comment l'impossible un jour a changé de nature, voilà ce que je voudrais dire. Comment l'impossible pour moi a changé radicalement sa nature, cela peut-il se dire? Comment d'empêchement, vertige de la confusion, présence se fondant dans l'absence, toute chose, même la douleur mangée par son envers, vacillement de tout au bord du rien, il devint cet ourlet d'ombre, donnant à chaque jour sa destinée et ses couleurs, ce grand mur offert d'inconnu sur lequel même étourdie, blessée, féroce, une heure se risque et prend appui. Et ce que je pourrais dire alors de l'impossible qui vient de cette soif en moi de distinguer, inextinguible, axe invisible, soutien indivisible pour qui pense cette exigence, je pourrais le dire aussi du silence. Existe-t-il ? Peut-on le faire ? Ce n'est pas pour rien que j'y pense. Ne sont-ils frères ? Ni l'inaudible, ni l'indicible, ce silence. Pas plus absence de bruit qu'il n'est absence d'oreille. Radicale expérience, mais résorbée, retournée, annulée, n'est-ce pas, aussitôt qu'éprouvée ? Ni cette intime ténuité de tout son, ni même du sens, la butée ou le bord, ni l'arrêt, ni la pause, ni suspendu, ça parle, infini, mais enclos dans le dit, ou bien l'enclos lui-même, un noyau, une fente, l'armature secrète, la condition du dit, l'impalpable squelette, sans quoi coulerait, épanché, infléchi, animal et bruissante, ne consisterait pas, ne se dresserait pas vers autrui, la parole.
Les 23e instants vidéo en direct dans cette émission spéciale en direct du studio de Grenouille. On vient d'entendre un quatrième extrait apporté par le poète et performeur Ginet M. Ginet, on retrouve là la voix de Florence Pazzotou. Peut-être quelques mots sur le texte qu'elle nous donne à entendre.
Les textes de Florence Pazzotou, je les sens comme des pièces pleines de reflets, pleines de sous-reflets, un peu comme un artisan regarderait un ouvrage lentement réalisé, lentement pensé, réfléchi en tout cas, mais contenant une force, contenant des surprises et... Et moi qui ne suis pas du tout un littéraire, moi qui aime beaucoup les poésies directes, celles de Serge P, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, je suis fasciné par la profondeur de ce travail qui me rend très très respectueux de la poésie et dans lequel je pense je progresse, parce que malgré tout il s'agit de progresser.
Serge Pey, que tu citais à l'instant, une poésie plus chamanique, une poésie qui jaillit du corps, dont le flux presque, on dirait, ne vient pas de l'esprit, ne vient pas du cerveau en tout cas. Alors que là, avec l'écriture de Florence, on a quand même l'impression d'une création intellectuelle, de quelque chose de très travaillé, de finement travaillé.
Oui, la pensée.
La pensée.
La pensée.
Une pensée que tu fais résonner dans un lieu dont on entend cette résonance, une caverne dans les tréfonds de la ville de Marseille. Où est-ce que tu as enregistré et filmé ce quatrième extrait ?
C'est un des endroits les plus hauts de Marseille, c'est le réservoir de la place des Moulins. Très rarement ouvert, toujours fermé, très sombre, avec une résonance particulière. On a profité d'une visite touristique, d'une petite association qui faisait visiter ça, et on s'est mêlé, comme on l'a fait avec les processions, avec les processions de la Major du 15 août. On s'est mêlé à ces bruits somptueux.
Une procession du 15 août que vous avez pris à contre-courant, hein, pour le coup, vraiment dans le sens inverse du flot de la foule, et sûrement dans un sens très divergent par rapport aux paroles de Monsieur le Curé, on imagine du moins, quoique avec sa complicité, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui. Et là, de même, à contre-courant de ce tourisme qui déferle aujourd'hui au panier, un panier que tu connais bien pour y avoir habité, Ginet.
J'ai mon atelier.
Qu'est-ce que tu penses de ce que devient ce quartier, puisque on est là sur une réflexion sur les territoires et on n'est pas dans une réflexion abstraite, hein, on est dans un vécu de ces territoires. Qu'est-ce que tu penses de ce quartier qui devient Plus belle la vie City ?
Qui est un peu en perdition d'audience, donc en perdition de promenade peut-être. Ce qui est amusant dans ce quartier par rapport à Plus belle la vie, c'est marrant comme titre d'ailleurs, j'en ai pas vu un seul épisode, c'est que très souvent, moi je suis souvent dans la rue, et très souvent, il y a des voitures, des gens qui arrivent et qui cherchent... avant qu'ils nous posent la question, on sait ce qu'ils cherchent. Ils cherchent le lieu où est tournée Plus belle la vie.
Le fameux Mistral.
Le fameux Mistral. Et moi, je leur dis, mais c'est pas du tout tourné ici, c'est tourné en studio. Et je me régale de voir les yeux qui s'affaissent, les gens qui se regardent entre eux, comment, etc. Comme s'ils étaient menés par un conte de fées, comme ça, et qui voulaient croire à tout ce qu'ils racontaient. Le quartier du Panier est irrigué par une foule qui se retrouve et qui se prend en photo devant Plus belle la vie. C'est très représentatif aussi des rêves d'aujourd'hui, hein, des petits rêves qui grandissent. Mais le quartier du Panier aussi est un quartier en profond modification. Il y a des époques et des peuples mêlés, des métiers mêlés. Moi, j'aime beaucoup ce quartier. Ceci dit, c'est vrai que coincé entre le vieux port qui sera rénové, Euroméditerranée, la rue de la République, à laquelle il va y avoir bientôt des belles boutiques, qui peut-être ne resteront pas longtemps, c'est pas trop.
Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui sont ouvertes. Hein. C'est plutôt un échec considérable. Peut-être sur la manière, et on est à propos ici d'un festival de l'image, d'une image poétique, mais où l'image a une place prépondérante. Qu'est-ce que vous pensez autour de cette table de la manière dont Marseille vend son image, dont Marseille est complaisante à l'égard de son image? Et on en parlait là, à l'occasion du panier et de sa transformation.
C'est assez intéressant, en fait, l'histoire du panier, l'image du panier actuellement, parce qu'en fait, moi aussi, j'habite le panier depuis plus de 10 ans. Et je suis toujours étonné que les téléspectateurs puissent croire que les images qu'on leur donne à voir dans le cadre de ce feuilleton, que j'ai dû voir une ou deux fois par curiosité, ils puissent croire que c'est la réalité. On voit très bien que c'est du décor, quoi. Donc c'est assez intéressant là, de voir quand même cette relation à l'image qui est entretenue quotidiennement, le rapport au faux, le rapport au factice, le rapport au mensonge.
Oui, juste.
Et là, pour le coup, on est dans une entreprise de communication, enfin c'est... Le faux est un moment du vrai, quoi. Et toute l'image de marque de Marseille des années à venir, comme beaucoup d'autres villes en Europe, va fonctionner sur cette Duprix. Qui est une Duprix, évidemment, c'est du commerce, c'est du business, mais c'est aussi de façon beaucoup plus subtile une façon d'imposer des récits qui sont des récits assez médiocres, enfin des qualités de parole, des qualités d'image qui sont quand même assez banales.
Le faux comme fabrique de vrai, d'un vrai un peu corrompu, d'un vrai un peu décomposé, c'est effectivement le cas. On vient d'apprendre il y a peu de temps que le bar des 13 coins, connu de tous les habitants du panier, était en train de devenir très officiellement le bar du Mistral, histoire sans doute de pouvoir y accueillir enfin ces flots de touristes à la recherche du vrai faux vrai bar dans lequel on n'a pas tourné ces épisodes, mais qui pourtant y ressemble tellement. Le faux, le vrai, décidément.
Plus c'est faux,
Fred.
Plus c'est faux, plus c'est vrai.
Et inversement, pourrait-on dire. Peut-être dans un autre registre des propositions de ce festival, les 23e instants vidéo, un festival d'images électroniques, d'images poétiques, mais un festival dans lequel toutes sortes de propositions artistiques ont aussi leur place, des propositions de danse, ce soir par exemple avec le collectif Scalène, et puis aussi l'écriture poétique, l'écriture des images fixes. Peut-être quelques mots pour évoquer, à l'occasion de ces 23e instants vidéo, la sortie d'un livre signé Vincent Bonnet. Le livre s'intitule « Pense bête ». Vincent, peut-être quelques mots pour présenter ce travail, son contexte.
Juste deux mots, parce que c'est peut-être... On a décidé de faire une espèce de marathon pour dire, voilà, le livre est sorti et... Bon voilà, c'est jamais une mince affaire de faire un livre, puisque on a décidé aussi avec l'éditeur et d'essayer de faire œuvre avec cet objet-là, quoi. Donc voilà, c'est un livre tout en images où il n'y a pas de texte, c'est une écriture en images, quoi. Voilà, dont on a fêté hier la sortie.
Une écriture d'image qui ressemble un peu à un palindrome, puisqu'il y a deux sens de lecture. Quand on a l'objet en main, on ne sait pas très bien d'ailleurs s'il faut commencer par la fin ou par le début. Et de toute manière, l'ordre des images se retrouve dans les deux sens, plus ou moins, avec quelques petites variations. Sur le travail de mise en page, justement.
C'est une écriture... Disons que déjà, c'est une écriture avec des images. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas évident, même si ça fait assez longtemps que Denis Roche en a parlé. Après, voilà, moi, j'ai constaté qu'on avait deux mains, une main droite, une main gauche, que ce qu'on nous propose aussi comme modalité de pensée, c'est oui, Non. Donc on était dans ce régime, mais qui est lié aussi à notre corps. Et j'ai essayé d'écrire finalement l'époque à travers une expérience photographique à partir de ce constat-là, quoi. Donc c'est vrai que il y a une linéarité du feuilletage et en même temps il y a quelque chose qui se reboucle dans un retour dans le déjà-vu, quoi, en fait, aussi. Je crois que on est
quelque chose à voir avec la ritournelle.
Je sais pas.
À Gilles Deleuze.
Avec le cliché, le déjà-vu, aussi constater que le lieu d'inscription d'une image, son support finalement a peut-être plus de force que c'est lui qui dicte quelque part la lecture qu'on va en avoir, quoi. Et c'est vrai que si elle est à droite ou à gauche, si je suis à côté, si tu es à ma droite ou si tu es à ma gauche, c'est pas la même situation, quoi.
Un livre d'images, mais dans lequel, malgré tout, quand même, apparaît un texte signé Jean-Marie Glaise, un texte que Jean-Marie Glaise est venu dire hier soir, c'était à la cartonnerie, j'en ai enregistré quelques extraits et j'avoue l'avoir un peu passé à la moulinette, pardon Jean-Marie, mais on écoute.
Ça fonctionne. Évident de lire comme ça, mais... C'était sur le canapé du fond, volet clos, rien à voir. Le paysage, un pré. C'était muré, c'était comme la nuit en plein jour, et il n'y avait que le trou de la page. La surface trouée de la page, celle du livre, entre les mains blanches et le va-et-vient des yeux. Sur la page, et la page était murée, lecture mot à mot et ligne à ligne, jusqu'à ne plus rien voir que la surface noire des mots, le trou des mots. Et cela peu à peu comme une image ou des images, et le mot image cognant et cognant. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai appris à détester les images. Et puis le post-scriptum. Il ne fallait pas céder à la magie matérielle. Nous nous étions décidés à faire le tour du hangar. La Chine était au fond dans les trous avec des chevaux. Et tout autour, le jardin continuait de se dresser vers le ciel. Je photographie notre vie pour voir, mais je n'en sais rien. Même commencer par la fin, le roman ne commence pas. On peut faire le tour par la droite ou par la gauche. Il s'enroule autour de nos bras. Le roman est une algue. Rimbaud crachait dans l'herbe. Je vois nettement la barque et lui qui vient de marcher sur des ronces. Blanc et des tresses brunes. Mais le récit n'a pas de fin. Il commence par la description des algues. Et nous sommes... montée sur la barque, elle continue dans le noir. La question principale ici reste la même. Est-elle, cette phrase, interrompue par elle-même, la réalité est-elle? Et l'interruption ici de la phrase, est-elle ceci ou cela? Est-elle cette totalité de signes noirs? Est-elle typographique sur papier, sur écran, sur creux de paume ou de marque? Est-elle sans cesse interrompue par la réalité qui la touche, la surprend? Est-elle cette ligne interrompue par une pluie de choses lourdes, de gouttes de métal fondues, de confettis collés en grave? À chaque point du récit, il fallait choisir.
Un extrait quelque peu malmené de l'intervention de Jean-Marie Glaise hier soir à l'occasion de la présentation et de la sortie de Pense-Bête. Mais je crois que quand même ça faisait sens d'introduire ces quelques éléments sonores dans le propos de l'écrivain lisant son texte. Tout à l'heure, Ginet évoquait que c'était très difficile au fond pour un écrivain de lire son propre texte. Et après tout, cette recomposition, je pense, ne trahit pas vraiment le sens de Pense-Bête. Quelques mots peut-être maintenant à partager ensemble sur cette idée d'éclatement qui était un peu le fil rouge du travail de Ginet dans l'invitation à laquelle il a répondu pour ses 23e instants vidéo. Alors, on s'éclate, peut-être quelques mots sur l'art et l'entertainment. Est-ce qu'aujourd'hui on est définitivement entré dans une ère du Walt Disney, dans un art et dans des pratiques artistiques qui sont toujours de plus en plus télévisuel et qui laisse de moins en moins place à l'irrespect, à l'expérimentation, à des formes peut-être plus ouvertes et plus créatives. Est-ce qu'on est de nouveau dans la société du spectacle? Fred, Ginet, Vincent, Stéphane, qui veut commencer? La société du spectacle?
Il n'y a pas eu de coupure, de toute façon, je crois. Il y a juste des moments où c'est un petit peu plus sur un mode concentré que d'autres, mais non, ça fait déjà très longtemps que ça dure, cette histoire-là. C'est vrai que là, il y a des symptômes qui sont un peu morbides, quoi. Un peu durs, quoi, et qui se répètent aussi.
Comme par exemple?
Je sais pas, il y a beaucoup de choses, moi, que je ne regarde plus parce que ça me fait un peu du mal, mais la télévision à dose massive, quand même, c'est... On parlait tout à l'heure de poésie, enfin, on parle de poésie, on parle de... Là, pour le coup, la qualité du langage, elle est vraiment mise à mal, quoi. Et la qualité des images, dont on parlait aussi tout à l'heure avec ce feuilleton, complètement, enfin... Donc c'est quand même une forme de représentation du monde, de conscience du monde. Quelles que soient les idées politiques qui sont lamentables, qui sont diffusées à travers ces images, mais les images en elles-mêmes et les mots en eux-mêmes sont complètement extraits toute forme d'énergie, toute forme de souplesse de ces formes-là.
Sur la granularité, l'émiettement, on disait tout à l'heure que finalement l'éclatement des formes artistiques c'était plutôt positif, c'était plutôt une bonne chose, ce qu'on a appelé pendant très longtemps la transdisciplinarité, mais on aboutit aujourd'hui à ce qui est un peu l'effet inverse, la face sombre en quelque sorte de ça, qui est l'émiettement des choses, une sorte de granularité, de fragmentation. Qu'est-ce que vous en pensez peut-être, Vincent, sur cette question?
J'en sais rien en fait. tout dépend de...
Petit collectif, grand réseau aujourd'hui.
Ouais, je sais pas, tout dépend des situations en même temps et des nécessités qu'on a. En même temps, ça peut être d'un côté complètement destructeur. En même temps, l'acte de création passe souvent par une logique d'un refus, mais après, c'est peut-être une étape. Après, tout dépend aussi des enjeux... éthiques et vitaux qu'on met derrière ces mots et derrière ces actes.
Fred, est-ce qu'on est dans l'âge de l'émiettement? Est-ce qu'on voit se réduire petit à petit les projets, ceux qui les portent, des tout petits collectifs arriver à survivre de manière précaire?
Écoute, ce qui est en train de se réduire, c'est les aides et les aides à la structuration, les aides... Par contre, je crois pas que... Je ne crois pas que les gens aient moins de projets, moins de choses à faire, moins d'envie. Quand je voyage comme ça dans certaines villes de France, même ailleurs, au contraire, je trouve qu'il y a une énergie vitale. Alors peut-être que c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire dans un certain contexte, est-ce que les gens sont beaucoup plus inventifs, énergiques? Ben, je crois que oui, je crois qu'en fait... J'ai l'impression que comme on n'a pas vraiment d'horizon, alors on devient beaucoup plus fécond, peut-être. En tout cas, c'est ce que je constate.
L'envie sans les moyens, c'est bien ce qui nous guette en ce moment. Les envies, les désirs, surtout, restent identiques. C'est bien les moyens qui manquent. Et il va falloir se les inventer nous-mêmes, parce qu'il ne faudra certainement pas attendre que ça vienne d'en haut. On arrive maintenant à la conclusion de cette émission spéciale qui était consacrée au 23e instant vidéo. Merci à Ginet, Fred Nefcher-Lian, Stéphane Lemercier, Vincent Bonnet d'y avoir participé. Merci à Marc Mercier d'avoir brillé par son absence à cette occasion. Tout à l'heure, à 17h, 17h30 dans le cadre de cette programmation Le Son des Images, performance, installation. À 18h30, le collectif Scalène. Intimité à partir de 20h15, tout ça c'est à la Friche. Nu porté ou nu par Enna Chaton, c'est à 22h et c'est au Grand Terrain, rue Vian. Et plus encore, si affinité au cours de cette soirée. Les 23e instants vidéo, c'est jusqu'à dimanche 14 novembre. Tout le programme est sur www.instantsvideo.com. Dans quelques instants, le 5 à 7, dans lequel je vous retrouverai d'ailleurs à propos d'une autre proposition, sont les rencontres à l'échelle, et notamment on parlera du dispositif mythique.med. Merci à Sébastien Gély qui était à la technique de cette émission.
Il y a des pays mêlés. Où les espèces se mélangent.
Les espèces se mélangent.
Où les routes sont incertaines.
Où les routes sont incertaines.
Où les montagnes soudain s'aplatissent.
Où les montagnes soudain. S'aplatissent et les rivières
prennent le
cours de l'eau de mer.
Ce sont en général des lieux de passage.
Entre deux paysages de bonheur.
Ou entre deux ombres.
Qui
soudain retrouvent leur lumière.